Ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zechona Ivracha. Alors la question de David.
Alors j'aimerais savoir comment ça se fait que plus les années passent et plus les générations sont en descente au niveau de l'intelligence des rabbinim, enfin l'intelligence de l'interprétation de la compréhension de la Torah. Pourquoi on a eu les Mishnayot, après on a eu les Gemarot, et puis après ça descend jusqu'à ce qu'on comprenne plus réellement le message que vous nous transmettez, M. Rabbeinu.
D'accord. Ce qu'ils appellent Yeridat HaDorot, la baisse des générations. Alors, c'est un phénomène qui est le fruit de la... qui est motivé par plusieurs raisons. La première raison est la grandeur d'âme. C'est comme un arbre. C'est comme un bâtiment. Il y a ici le monde, il a une mission à faire. Au début, quand tu vas construire un bâtiment, tu fais de grosses œuvres. Le terme, c'est grosses œuvres. On parle de grosses choses. On va amener les tracteurs, après on met grosses pierres, le ciment. Puis après, on commence à mettre les pierres de recouvrement. Puis on commence à faire l'intérieur. Puis on fait les finitions. Les finitions, on prend un petit pinceau et on fait le... Il y a encore les petits trucs à dire ici. Tac. Et là, le bâtiment est fini. De même, lorsque Hachem décide de commencer à faire le tikkun du monde, le tikkun, il y a deux choses. Hein, le tikkun, c'est-à-dire le tikkun, la réparation, quelque part, la mission du monde, il y a deux choses. Il y a ce que le premier homme aurait dû faire, Adam Harishon. Quand il était créé, il avait une mission. Quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, voici, il l'a mis dans le jardin d'Éden, les Ovda ou les Shomra. Les Ovda signifie travailler, donc s'en occuper. Le Shomra est le garder. S'en occuper, c'est positif. Occupe-toi. Garder, c'est attention, ne pas, qu'il n'y ait pas des choses extérieures mauvaises qui rentrent. Chazal dit, c'est les lois positives et les lois négatives. Donc il avait des mitzvot à faire, il avait quelque chose à faire. Il y avait une Torah qui concernait le premier homme. Et il devait tenir 24 heures, même moins, du moment où il a été créé le vendredi à 2e heure de la journée, il devait tenir 10 heures. 10 heures. Il n'a pas tenu, et là il y a eu un patatras, pas national ni international, un patatras universel de toute la réalité qui tombait extrêmement bas. Dès lors, il y a deux travaux à faire. Il y a le travail à réparer ce que fait le premier homme et réparer ce que... Enfin, faire aussi le job qu'il aurait dû faire s'il n'avait pas péché. C'est 10 heures aussi. C'est 10 heures. Les 10 heures... Le travail des 10 heures, il se fera dès la venue du Messie. Quand le Messie vient, le monde arrivera à la situation du premier homme avant le péché originel. D'ailleurs, il y aura encore un travail à faire, oui.
Quand le premier homme il a fauté, c'est nous aussi qui avons fauté avec lui.
Nous sommes inclus en lui, absolument. Nous sommes une partie d'âme du premier homme. Pardon ? Oui, on est parti. Ouais, absolument. Absolument.
Pour ça que... On a participé au choix, nous tous.
Absolument. Nous étions là-bas. Nous, on est parti de lui, ensemble. Allez.
Au même titre que pour le Vaudor aussi, on était là.
Alors, maintenant, dans cette partie-là de réparation dû au péché du premier homme, il y a eu aussi un ajout d'autres problèmes. La Torah nous relate l'histoire de l'humanité, pas pour nous raconter ce qui s'est passé en tant que bouquin d'histoire, mais en tant que l'histoire de nos neshamot. Nos âmes sont revenues en réincarnation à plusieurs générations durant l'histoire, et à chaque fois c'était un autre patatras, jusqu'à ce que soit venu Abraham Avinu. Il y a en gros 4 patatras grands. Patatras, c'est, comment on dit ça, la traduction du mot patatras en bon français, monsieur Cherki.
Une perturbation.
Non. Hein. Un tragédie dramatique, un boom. Voilà. Traduction du mot patatras, un grand cataclysme. Voilà, cataclysme au niveau des âmes. Le premier cataclysme a eu lieu avec Enosh, le petit-fils de Adam, qui a pratiqué, à son époque, a commencé l'idolâtrie. Après, la génération du déluge. Après, troisième patatras, cataclysme, la tour de Babel. Et enfin, quatrième cataclysme, la génération de Sodome et Gomorre. Ce sont tous les âmes du premier homme qui sont revenues en réincarnation et ont continué dans la mauvaise voie. Et à ce moment, on se lève lors de la tour de Babel, c'était en l'an 2000, avant que nous avions 48 ans. Hachem a donné 2000 ans à l'humanité pour arriver à réparer, à faire le job. Et ils n'ont pas réparé, au contraire, ils sont allés de mal en pis. Là, s'est levé Abraham Avinu et a dit, moi, je prends sur moi ce job. Aider Abraham Avinu commence l'histoire d'Am Israël, qui seront les âmes réincarnées de ces générations de cataclysmes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et dès lors, commence le gros œuvre de la réparation. Abraham, ce sont des âmes colossales, énormes. Elles font un boulot extraordinaire. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, ce sont des super grands... Des prophètes, 48 prophètes, 7 prophétesses. Maintenant, à mesure que l'histoire avance, le tikkun, la réparation, le job qui est fait, il avance aussi. Plus besoin d'investir dans la grosse œuvre, il est fait. Plus on avance, plus on est dans la finition. Et nous, on est, un exemple qui a été donné par Hazal, on est les petits nains qui sont sur la tête du géant. Les géants, c'est nos ancêtres. Ils ont fait le boulot énorme. Mais ils ne sont pas arrivés au niveau de pouvoir voir, il y a comme une colline, et ils n'arrivent pas au sommet. Le petit nain qu'on met dessus, tac, lui, hop, il voit tout. Nous, on est les derniers, donc les plus nuls, mais c'est grâce à nous, Baruch HaShem, que la Géoula va venir. Pourquoi ? Parce que, pourquoi nous ? On n'est pas grand méritant, on n'est pas plus méritant qu'eux. Mais c'est nous qu'on finit. On est la finition.
Oui, mais en quoi nous on finit que...
Bon, non, alors... Alors...
Il a pu venir, Friskao et vous, il aurait pu venir les chars, ça veut dire qu'à ce moment-là, on aurait été inutile.
Nous, c'est eux. Si ma chère serait venue à l'époque de Friskao, nous, on aurait été là-bas, nos âmes étaient là-bas. Nous, on est des parties d'âmes de ces âmes. On est des parties. Attends, je vais comment répondre à la question de Yaakov. Pourquoi nous ? Nous, on a une chose que personne d'autre a. Est-ce que c'est grâce à nous ? Je ne pense pas tellement. C'est certain que c'est un flux de lumière extraordinaire d'Hachem, mais notre génération a une chose qu'aucune autre génération de l'histoire a. Aucune génération de notre histoire, durant l'histoire, a vécu dans un mal aussi terrible, aussi facile. Un temps, pour aller faire une bêtise, fallait aller dans une maison de passe. En bon français, ça la fout mal, quoi. Le rabbin, avec sa barbe, d'accord, il va... il doit se maquiller, ça ne sait pas, quoi. C'est camouflé. Aujourd'hui, il a une petite boîte comme ça, toutes sortes. iPhone, iPad, iPod, iMachin, aïe, d'accord, tout ce que tu veux. Tout seul dans sa chambre. Tink, un bouton. Tink. Et non, il est dans l'enfer. Dans l'enfer, le pire. Pire. Mieux que tout ce qu'il peut imaginer. La Gemara, dans
plus pour mieux de la chia.
Ouais, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. La Gemara, elle dit dans Maaseret Yoma que plus grand est la vue que l'action elle-même. Il peut y avoir plus de jouissance à la vue qu'en vrai. Les hommes comprennent de quoi je parle. La Gemara le dit il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le péché peut être très 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 profond au niveau de la vue. Sauf que la vue, la Kabbalah dit que les yeux sont proches du cerveau. Donc l'image, elle rentre très vite. Elle est imprégnée.
Dans la mitzvah aussi, plus grande est la vue que l'action ?
Oui. Dans la mitzvah aussi. La plus grande bracha qu'on peut faire, la Kabbalah, elle dit, c'est aller voir un roi, faire la bracha sur un roi. Un roi goy ou un roi juif. Sachez que le Mashiach revient, ce sera un roi juif. Mais il y a 10 sphères. Le niveau le plus haut, c'est Keter, la couronne. Quand tu vois un roi, Goy ou un roi, tu fais la bracha, tu fais une très grande réparation. Pardon ?
Belle bracha sur les présidents.
Ça dépend quel président. Si c'est un maître d'un pays, tu prends par exemple tous les tyrans que tu as. Assad, d'accord, Ahmadinejad, voilà, à l'époque, je ne sais pas, tous les pays, Kadhafi, Mussolini, Hitler, il marche mot, d'accord,
Hitler,
j'ai dit, il marche mot, il va jouer. Hein?
Ben Ali.
Non, à l'époque.
Mais il est mort, lui.
Il n'est pas mort.
Non, lui, c'est un gentil. Un roi, c'est...
D'accord.
Un roi qui est... Pardon, la reine d'Angleterre, non. La reine d'Angleterre, elle est gentille pour l'image, c'est tout.
C'est
Un roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, d'accord. Si.
Tous du pouvoir, ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent, tous les présidents, tout ça.
Obama, est-ce qu'on ferait sur Obama, oui ou non? Je sais pas. Par exemple, tu prends, comment il s'appelle, Hollande. Certains que non, Hollande. Est-ce qu'on lui le fait arriver? Hollande, est-ce qu'on lui le fait arriver? C'est rien, c'est rien du tout. C'est rien, hein? Bien sûr.
Parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir exécutif, ces gens-là, à la différence de...
Voilà. Bon, attends, je suis en plein de développement. Ok. Ça va ce que je dis?
Non, pour revenir au début de ce qu'il a dit, plus ça va, plus on chute.
Ouais.
Or, on voit au cours de l'histoire qu'il y a eu une montée, bon, on a eu l'Israq et Akkor, etc. Mais on a vu que plus ça va, plus l'histoire passe, on a eu Talmud, on a eu etc. C'est monté. Puisqu'on voit même que leur niveau, ils étaient capables de ressusciter les morts. Comment ça se fait que du jour au lendemain, de leur niveau à eux, on a chuté. Il y a eu une montée.
Pas une montée. Non. Si les rabbins du Talmud...
Mais ils ont remonté le niveau, ils ont ramené tous les juifs avec eux.
Si les rabbins du Talmud, dont on cite le nom, étaient capables de ressusciter un mort, à plus forte raison, les Tanaïm, les rabbins de la Mishnah, à plus forte raison, les Zougot, c'était le début des époques de Tanaïm, à plus forte raison, les prophètes, à plus forte raison, les juifs, à plus forte raison, Moshe Rabbin, à plus forte raison, Abraham Yitzhak et Yaakov, il n'y a aucune question là-dessus, c'est évident. Abraham, c'est la tête. Dès Abraham. Non. Abraham a commencé le plus haut. Et après, bon, Abraham, ça reste, disons, jusqu'à Abraham, on monte peut-être, le peuple d'Israël reste à un haut niveau jusqu'au don de la Torah au Mont Sinaï. Là, on commence, au niveau du peuple d'Israël, et après, ça va en baissant, c'est clair. Ça baisse. Pourquoi est-ce qu'une parole qui était simple, simplement comprise de la Gemara, Abaye l'a dit comme ça, aujourd'hui, des fois, il faut 3 livres, d'accord, pour expliquer cela. Tu as les commentateurs, les Nassavouraïm, après tu as les Rishonim, après tu as les Achronim, après les Achronim, comme il dit, sur chaque livre, tu as l'explication. Le Mishnah Berurah, à l'époque, il a écrit il y a un siècle environ Mishnah Berurah, d'accord. C'était le livre. Aujourd'hui, c'est combien d'explications sur le Mishnah Berurah? Tous les années, tu as un nouveau livre qui sort avec l'explication du Mishnah Berurah. Et le machin qui explique encore plus. Il a raison, on a besoin de toujours plus. Pourquoi? Parce que notre niveau de Nishama, il baisse. Oui, mais je vais finir avec Yaakov et tu me poses ta question. Donc Yaakov me pose la question, pourquoi notre génération? Nous, on a une chose que personne n'a. On vit dans un environnement où la vera, elle est extrêmement facile, extrêmement tentante. Je ne sais pas comment un gosse de 16 ans, il tient le coup aujourd'hui. C'est très très dur. La Torah, elle est extrêmement exigeante. Tout ce qui est bon, c'est interdit. Aujourd'hui, dans la rue de chez toi, t'es un bouton, tu peux avoir les kiffs les plus grands qu'il y a. Je compare les bonbons qu'il y avait quand moi j'étais jeune et qu'il y a aujourd'hui. C'est inimaginable aujourd'hui. Les couleurs, même les jus. Les jus, d'accord. Comment on voit les bonbons? D'accord, d'abord ça fond, après ça croque, après ça refond, après t'as tout un machin. La nouvelle glace, j'ai vu maintenant des pubs, d'accord, le Magnum, machin, t'as une couche de chocolat avec des petits trucs là, après un choc fond, machin. Le type, il doit retenir. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait une glace à l'eau avec la langue, c'est tout. Hein. C'est terminé. On était content, un sorbet. Les jus. Alors, t'avais quoi? Les jus de pomme, il y avait quoi? Jus d'orange. Ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, t'as pas un jus avec... Ça n'existe plus de prendre un jus avec un seul goût. T'as mango banane. T'as mélange tropique, fruit de la passion, des trucs. Inimaginable. On exacerbe tous les sens. C'est très dur, très très dur. Donc le péché est très facile, très tentant et très grave, évidemment. Et malgré tout, tu vois qu'il n'y a jamais eu de génération où il y a autant de tchouva. Autant de gens qui font tchouva. C'est inimaginable. Il y a un siècle, il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas un juif qui kiffait la Torah. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, tu n'as pas une famille où tu n'as pas aussi un Baal Tchouva. Il n'existe pas. Dans toutes les familles, tu as quelqu'un, on ne sait plus. Il y a 40 ans, c'était le zombie qui fait le Tchouva. Aujourd'hui, toi aussi, voilà, ok, bon. On n'est plus les seuls. D'accord. Baruch Hashem. Et c'est marqué, ou Baal Tzion Goel, et vient à Sion le Goel Rédempteur, ou Shavé Shavé Yaakov, à ceux qui feront Tchouva dans Yaakov. Et la Torah, elle a, dans Parashat Nitzavim, elle a assuré à la fin de leur exil, les Israël feront Tchouva, et immédiatement, ils seront sauvés. Comme ça explique le Rambam, les versets. de Parashat Nitzavim. Donc il y a une promesse, donc nous attendons Baruch Hashem la Géoula très prochainement. Donc c'est pour ça que nous sommes au bout et nous on voit la Géoula. Mais on est les finitions. Étant finition, forcément on rentre dans le détail, dans le petit. Notre niveau d'âme il est tout petit, 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 minuscule. Pourquoi? Parce que, comment ça se passe? Les grandes âmes, elles vont faire le travail. Une âme vient ici, elle fait un boulot, elle fait 90% de son job. Maintenant, les 20% qui n'a pas été fait, elle revient dans une autre âme qui va faire 80% de son job. Combien il reste de la totale? 4%. 4% qui va dans une autre âme, qui fait 80%. Combien il reste de la totale? 0, 4%, allez, 0,8, 0,8%. D'accord? 0,8%, on est à 0,8%. Après 5 générations, j'ai 0,8%. Après, lui, il va faire 80% de la totale. Combien il lui reste? Allez, on va dire, pour pas être trop dans le calcul, d'accord, 0,1 de la totale. 0,1 de la totale. Si 0,1 de la totale, il va aussi après multiplier, on va le faire équivaloir à 1000, d'accord, de nous, on descend. 800. Après les 200, il reste 40. 40, après de nous, 40, il reste 8. 8, il reste de nouveau 1, etc. On est des millimètres, 2 millimètres, 2 millimètres d'âmes, de grandes âmes qui ont fait leur job.
Mais eux, ils n'ont pas réparé dans les générations avant.
Ils ont même. Bien sûr, on fait énormément. Si,
pourquoi ils ont réparé ça, Hegel?
Regarde. Le simple fait que quelqu'un fasse ses trois prières par jour, il mette les tefillines, il fait le mach avant de manger, il fait un job énorme déjà. Étude de Torah encore plus grand. Et s'il souffre, on n'en parle pas. D'accord? Et Am Israël a souffert, a étudié la Torah, a fait les mitzvot. Bien sûr, en route, il y a des péchés qui ont été faits. Alors ça aussi, c'est rajouté à la facture et on répare aussi. Prends la Shoah. Quand tu vois l'histoire d'une personne dans la Shoah, quelle souffrance, une personne. Attends, il y a 6 millions. Combien c'est de mérite extraordinaire? C'est clair, hein, il n'y a aucun doute qu'il y a un rapport entre la Shoah actuelle et la Shoah. Le Tikkun, il a avancé de 400 ans, 1000 ans, 3000 ans, il a avancé, d'accord, avec la Shoah. Il a fini, en deux mots, il a presque fini. Et donc, on a pu déjà entamer, dès lors, ça commence le retour en Israël physique, et retour en Israël spirituel, en Israël, retour à Israël, retour la Tchouva, en deux mots, le retour à Dieu, le retour à la Torah spirituelle. On espère que bientôt, on arrive à l'achèvement de cela. Donc, première raison, baisse de génération au niveau des âmes.
Maintenant, il y a une remontée alors.
Oui.
C'est ce que vous venez de dire.
Oui.
Finalement, on ne chute plus maintenant. On est en train de monter alors.
Oui, mais notre niveau, il chute. On est petit. On est en train de remonter. Le petit, il remonte. Mais il est petit. Il reste petit. Il n'est pas grand. Il n'y a pas des grandes âmes comme Avraham Avinu. Il n'y a pas. Il y a Machar qui viendra, qui lui, oui, c'est une très grande âme. Mais nous, on est des nuls. Alors, des nuls qui remontent. Ok, on est des nuls qui remontent. Oui.
Pourquoi Hachem, il a la volonté de répartir le travail sur plusieurs petites âmes et de ne pas faire comme avant et de le répartir sur une grande âme?
J'expliquais. Ce n'est pas qu'il a une volonté ou pas. Lui, il donne maintenant à la première âme, il donne un job. Fait 100%. Oui, c'est rare qu'on fasse 100%.
On peut suivre votre théorie et dire qu'il pourrait y avoir une baisse de génération et tout ça, on pourrait simplement être, je sais pas, c'est une idée ce que je dis maintenant, mais très peu nombreux sur la Terre, parce que c'est tous des grandes âmes.
Non.
Et il peut avoir la
non,
facile aussi.
Non, non, parce que l'âme qui vient maintenant, c'est quoi une âme? Une âme, c'est un potentiel de vie. Maintenant, nous tous faisons partie d'âmes qui sont déjà venues. On est tous des réincarnés. Donc le premier qui est venu, il avait l'âme toute neuve, toute belle, il avait le 100% du potentiel. Maintenant, lui, il a fait le tikkun 80%. Il ne reste plus que 20%. Et le 20%, il a fait 80%. Il ne reste plus que 4%. 4%, il a fait 80%. Il ne reste plus que 0,8%, etc. Donc, nous, on est de cette grande âme. On est les derniers. Prends une piscine énorme. On est les 2-3 gouttes qui restent.
Pourquoi on n'en voit pas un seul pour réparer tout ça?
Mais on a envoyé le premier. Le premier, il a reçu une piscine entière. Combien il a fait? Il a presque tout fait. Il restait quand même 20%. Il restait un peu. OK. L'autre, il a fait encore.
Et moi, ce que je vous demande, c'est qu'il reste très, très peu pour beaucoup de juifs. Par rapport à...
Pourquoi beaucoup? On est 13 millions.
Je ne parle pas sur la planète entière, mais je parle que par rapport au travail d'un homme. Il y avait un homme avant, par exemple. Admettons juste Abraham Avinu. Lui, il avait un travail immense à faire.
Ouais.
Tout sur ses épaules.
Ouais.
Nous, aujourd'hui, on est répartis en 13 millions
okay.
pour avoir 0,001. Pourquoi il n'en met pas un seul tout de suite qui va faire le 0,001?
C'est Machia.
Parce que nous sommes des parties d'âmes. Il y a plusieurs âmes. Il y a 600 000 âmes à la base. Okay, 600 000 âmes. Tout commence au don de Torah au Mont Sinaï. Il y a 600 000 âmes qui sont des âmes neuves, grandes, avec leur job à faire. Maintenant, elles vont commencer à travailler. De ces 600 000 âmes, il y a des petits restes. Maintenant, tu me diras, alors, on ne doit être que 600 000. Non, parce que c'est plus compliqué que cela. Quand on parle d'âme, il n'y a pas une âme. On a 5 âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayachida. Qui elles-mêmes sont réparties aussi en 5. Nefesh, Ruach, Neshama, on appelle Narnachi. Narnachi de Nefesh. Narnachi de Ruach. Narnachi de Neshama. Narnachi, ça nous fait déjà combien? 25. Et ces Narnachi de chacun sont aussi de nouveau répartis en 5. Ça nous fait déjà 125, etc. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup. Chacun maintenant, il revient avec une petite partie. Alors il y en a qui viennent avec beaucoup. Dans ces parties, il y en a qui ont des plus grandes, des plus petites. Mais forcément, on arrive à un nombre très, très grand de morceaux d'âme. Ok, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le font. Première raison, c'est donc baisse des âmes. Deuxième raison. Quand on parle de baisse des générations, il y a aussi une baisse de l'appréhension d'Hachem. L'appréhension d'Hachem, ça veut dire à quel point j'adhère à Hachem, je sens Hachem, je suis proche d'Hachem, d'accord ? Il y a un éloignement aussi, on appelle que la Shrina est en galoute, la présence divine est en galoute, est en exil. C'est quoi qu'en exil ? C'est nous qui sommes très très éloignés de la présence divine, de l'appréhension, ça veut dire d'accéder à la sensation et à la connaissance d'Hachem. On est très loin de cela. Pourquoi Hachem met beaucoup d'écrans entre lui et nous ? Des écrans spirituels. Pourquoi il le fait ? La raison est la suivante. Plus le dévoilement d'Hachem est clair, Mont Sinaï. Hachem, c'est marqué, il a crevé sept cieux et il dit voilà, Anochi Hachem, je suis l'Éternel. Tout le monde a vu. Vu pas avec les yeux de chair, on parle d'une vision prophétique. Maintenant, quand ils font le veau d'or, 40 jours plus tard, ils méritent la mort. Hachem a dit, je vais tous les anéantir. Alors Moshe, il prie, etc. Il arrive à atténuer. Hachem dit, ok, une partie, 3000 ont été tués, une partie a survécu. Après, en rajoutant les autres péchés qu'ils ont faits durant cette génération du désert, tous sont morts, tous ceux qui avaient 20-60 ans sont morts dans le désert, pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Et Hachem a laissé une partie du tikkun, de la facture en quelque sorte, du péché du veau d'or pour toute l'histoire. C'est marqué, Chazalis, tu n'as pas un malheur qui arrive au peuple d'Israël auquel il n'y a pas aussi une petite partie du veau d'or aussi qu'on répare par cela. Maintenant, lorsqu'un dévoilement d'Hachem, comme celui qui est au Mont Sinaï, on fait le veau d'or 40 jours plus tard, on est extrêmement coupable. La Gemara dans Shabbat est dit, c'est comme une kala, une mariée, qui trompe son mari sous le dénuptial. Ça va, restons calmes, attends demain, d'accord. Déjà, sous le dénuptial, tu trompes son mari. La honte. Hachem ne veut pas anéantir le peuple d'Israël. Pour préserver, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide la tente d'assignation, le Ohel Moed, qui était la présence de Dieu dans Israël. Hachem décide, il le met à l'extérieur. Ça, c'est extérieur. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui pourra rentrer, sortir, il y aura son visage qui va illuminer. Et avant le péché, avant le veau d'or, Bnei Israël n'était pas effrayé par l'illumination de Moshe. Ils ne voyaient même pas, parce qu'ils étaient eux-mêmes au même niveau. Quelqu'un de lumineux, ils voient un autre lumineux, ils sont à égalité. Mais étant donné qu'ils sont descendus très bas dans l'obscurité, voir le visage de Moshe, c'est déjà, ils ne pouvaient pas voir. Moshe devait mettre un camouflage, un masque sur son visage. Tellement ils sont baissés, tellement ils sont déjà baissés. Donc déjà, Hachem s'éloigne, il met la tente d'assignation, donc l'endroit de la demeure d'Hachem que je passe à présent sur Terre, déjà à l'extérieur du peuple. Après, le peuple continue à pécher. On arrive à la destruction du temple. Le temple, c'était aussi l'endroit de la présence d'Hachem. Le temple est détruit. On reconstruit, mais Chazal l'ont dit, dans le deuxième temple, il y a beaucoup moins de présence d'Hachem que dans le premier. De nouveau des péchés, on détruit le temple. Hachem s'éloigne encore plus. C'est marqué que lorsque le temple a été détruit, il y a eu 10 galouyotes, 10 exils de la Shrina. Elle est partie à un endroit, après encore un autre, elle s'est éloignée toujours plus. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'Hachem s'éloigne, étant donné qu'on sent moins la présence d'Hachem, donc on a plus, le mal gagne du terrain quelque part et nous tente plus au péché. Un moment. Il nous tente plus au péché. Et donc on fait plus de péché. Donc on est coupable. Hachem devrait nous anéantir. Comment tous faire des péchés alors que je suis présent ? Que fait Hachem pour ne pas nous anéantir ? Il s'éloigne. Un moment, laisse-moi 2 minutes. Il s'éloigne, comme ça, quelque part, il peut dire, bon, alors maintenant, vu que je suis moins présent, ce qu'ils ont fait, c'est moins grave. Il y a une différence entre faire ses excréments devant le roi que dans les jardins du roi. D'accord ? Donc Hachem, il voit que tu fais ses excréments devant lui, il part. Comme ça, c'est pas si grave que ce que tu as fait. Quand tu vois que le roi n'est pas là, tu fais la bamboula. Alors qu'est-ce qu'il fait le roi ? Il s'éloigne encore plus. De plus en plus, Hachem va cacher sa présence pour préserver le peuple juif, pour le préserver, pour qu'il soit moins coupable. Donc plus il s'éloigne, plus ça fait que nous aussi on s'éloigne, vu qu'on est plus maintenant tenté d'aller vers le mal, vu qu'il y a moins de présence divine. Plus l'histoire avance, plus Hachem s'éloigne, plus on fait des péchés, donc plus Hachem s'éloigne, donc plus on fait des péchés, donc il s'éloigne, plus on fait des péchés, plus on s'éloigne. C'est pour cela que nous, on appelle ça l'Yerida Tadorot, on est tout à la fin de l'exil, donc on est très loin. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de grands rabbins qui font des miracles, il n'y a presque plus, il y a un peu, mais beaucoup.
Le Mitzvot aussi, elle ne va pas pour rien alors.
Pardon ?
Le Mitzvot aussi, elle ne va plus grand chose alors, puisqu'à chaque fois on s'éloigne.
Oui. D'un côté, c'est comme tu dis.
Alors,
alors à qui je réponds d'abord ? Bon, vas-y, t'inquiète d'abord.
Ce qui semble justement contradictoire, c'est qu'au contraire, nous, on est descendu, on a chuté, presque on touche la strava. Au contraire, Hachem, il devrait dire le contraire, ça y est, ils sont perdus. Il faut que je m'approche d'eux pour les tirer de où ils sont.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à la question, nos mitzvot ont beaucoup plus d'éclat. Je vais raconter plusieurs fois, je vais raconter parce qu'elle est très belle comme histoire. 10 fois que je le raconte, du moins sur Internet, mais il faut bien comprendre cela, parce que sinon, on ne se rend pas compte qui nous sommes. Une des plus grandes figures du judaïsme qui a existé, c'était Rabbeinu Ha'ari. Rabbeinu Ha'ari qui a vécu, si je ne me trompe pas, 32 ou 37 ans, très 38, mort très jeune, enseigné son élève Rabbi Chaim Vital 22 mois. Il lui a enseigné toute la Kabbalah que nous apprenons aujourd'hui dans ceux qui étudient les Kabbalah étudient presque uniquement que qu'on appelle Kitvei Ari, les écrits de Rabbeinu Ha'ari. Le Ha'ari n'a pas écrit. Son élève, Rabbi Chaim Vital, pendant 22 mois a appris chez lui, et après pendant 50 ans, il a réécrit ce qu'il a appris pendant les 22 mois chez Rabbeinu Ha'ari. Toute la Kabbalah. Des secrets profonds que presque personne ne peut aujourd'hui comprendre tellement ils sont profonds. Rabbeinu Ha'ari a dit, le seul qui comprend ce que je dis, c'est toi, Rabbi Chaim Vital. Moi, je suis venu sur terre pour toi. Il y avait d'autres élèves à Rabbeinu Ha'ari, ils comprenaient, ils croyaient qu'ils comprenaient. C'est très très profond. Un jour, Rabbeinu Ha'ari a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, dit, sache que tu es aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est qui ? Un Baal Tshuva, il fait Tshuva à l'âge de 40 ans. Lorsque Moshe Rabbeinu monte au haut du mont Sinaï, il voit toutes les générations à venir. Il voit Rabbi Akiva. Il dit à Hachem, je ne comprends pas. Tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Il mérite beaucoup plus que moi. Rabbi Akiva est plus haut que Moshe. Dieu lui répond, tu as raison. Mais j'ai décidé que ce serait par toi, Moshe, et non par Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva est plus haut que Moshe. Moshe ne comprend pas comment c'est Rabbi Akiva et comment c'est par Rabbi Akiva et lui. Rabbeinu Ha'ari, pour vous situer un peu dans l'histoire, hein, Moshe Rabbeinu s'est établi il y a 3000 ans, en 2448 de la création, ça nous fait 3300 ans environ. Rabbeinu Ha'ari, c'est il y a 500 ans, et nous, c'est aujourd'hui. Et Rabbi Akiva, c'était il y a 2000 ans. Il y a 500 ans, un homme comme Rabbi Akiva, c'est impossible. Impossible. Je fais une petite parenthèse. Pour vous comprendre un peu mieux ça, une petite parenthèse dans ce que je suis en train de dire. On a une des grandes hautes figures de l'histoire, c'est le Gaon de Vilna. Rabbi Eliyahu de Vilna vivait il y a 250 ans à Vilna, ville de Lituanie, capitale de la Lituanie, qui était un homme d'une envergure extraordinaire. Il dormait une demi-heure, étudiait 5h30. Toute sa vie. À l'âge de 40 ans, il a arrêté d'étudier le Pshat. Le sens simple que Kabbalah. Le sens simple, il a écrit un commentaire du Gaon de Vilna, un commentaire du Shulchan Aruch. Le fils de Rabbi Sonaba Shaoul m'a dit, pour dire la grandeur de son père, il m'a dit, mon père, Rabbi Sonaba Shaoul, un des grands de la génération, étudiait le Shulchan Aruch avec le Pérouche, avec l'explication du Gaon de Vilna. C'est incompréhensible. Je veux dire, il y a des bouquins qui sont sortis pour expliquer ça, d'accord, pour chaque ligne, tu as 3 pages. C'est tout d'abord, comme c'est écrit là, il y a des pages. La page là, c'est une question, la page c'est une réponse, une page c'est une question, une page c'est... Voilà, c'est... Et ça, il a écrit avant l'âge de 40 ans. C'est son niveau extraordinaire. Le élève du Gaon de Vilna s'appelait le Rav Chaim de Volozhin, qui a écrit le livre Nefesh HaChaim. Maintenant, il y a un commentaire du Gaon de Vilna sur Sifra Tzniuta. C'est une partie du Zohar, la Kabbalah, commentaire du Gaon de Vilna. Son élève Rabbi Chaim de Volozhin a fait une introduction au commentaire de son maître sur le Zohar. Cette introduction, il raconte qui était son rave. Cette traduction, elle est imprimée dans pas mal d'éditions de Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Il y a là-bas aussi l'introduction de Abraham Vologine sur le commentaire de son rave. Il dit qui était son rave. Il dit que chaque fois qu'il dormait, il montait étudier dans les chivotes d'en haut. Il dit chivotes en haut, de Rashi, de Rashbi, de Rabbi. Il descendait avec des chidushim qu'il avait là-bas. Il a écrit une fois dans Sifrat Simutai, il a écrit ce chidush je le tiens de Yaakov Avinu. Et c'est vrai qu'avec Yaakov Avinu, d'accord, il faut le faire, là, c'est pas n'importe qui. Énorme, énorme. Le Rav Chaim Lev Vologine parlait yiddish. Shabbat, il parlait hébreu. Shabbat, pour des frères, il parlait le Shana Kodesh, hébreu. Et chaque jour, chaque Shabbat, à Souda Shishit, ses élèves venaient, ils mangeaient ensemble et ils leur racontaient comme ça des chidushes Torah. Et un jour, il a parlé de son rave, du Gaon de Vilna. Un élève lui a demandé, mais est-ce que le Gaon de Vilna était aussi grand, par exemple, comme le Ramban? Le Ramban, c'était un des grands rishonim, vivait en l'an 1200 environ, 1200 de l'ère chrétienne. Un des grands rabbins médiévaux, un rishon, on appelle cela. Le rabbi Chaim Lev Vologine était tellement choqué par la question, il s'est mis à parler en yiddish. Il dit, avec tout ce que j'adule mon rav, que je connais à quel point il était grand, énorme, comme le Ramban, impossible. Peut-être, il serait arrivé au niveau d'un élève du Rashba. Le Ramban avait un élève, c'est le Rashba. Peut-être le Gaon de Vilna serait arrivé au niveau d'un élève du Rashba. Vous comprenez un peu à quel point ça descend vite. Le Gaon de Vilna, c'est 600 ans plus tard. Il était énorme, mais dire qu'il est comme le Ramban, impossible. Peut-être comme un élève d'un élève du Ramban. Donc quand on dit, je reviens maintenant sur Rabbi Nohari avec son élève Rabbi Chaim Vital. Il lui dit, t'es comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est 1800 ans. Non, c'est 1500 ans auparavant. Rabbi Chaim Vital, qui sait qu'il est, il est Kodara, ça va, je sais qui je suis. Rabbi Akiva, c'est rien à voir, c'est un moustique par rapport à un géant. Rabbi Nohari lui répond, oui, t'as raison. Si on prend les deux, t'es un moustique, lui c'est un géant. Mais sache qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle dans le monde énorme. Énorme. Et Rabbi Akiva était comme un projecteur. Un projecteur de 2000 watts. Un projecteur en plein jour. À combien il éclaire ? 2000 watts. À 5 mètres. Grand maximum. Donc aussi grand qu'il était, oui, mais l'effet qu'il faisait n'était pas très grand. Parce qu'il faisait jour, il y avait une grande lumière divine. Donc sa lumière, elle est grande. Mais une lumière dans la lumière, comme il a Gemara, une bougie en plein jour, à quoi elle sert ? Rien du tout. À notre époque, dit Rabbi Nohari, les forces du mal se sont beaucoup, beaucoup épaissies. Et il fait très noir, obscur. Une épaisseur de noir énorme. Et toi, tu es une petite flamme. La petite flamme que tu fais, Rabbi Chaim Vital, elle équivaut dans son effet à celui du projecteur de Rabbi Akiva. Tu prends une flamme dans le noir total, dans le désert, d'accord ? Tu mets une flamme, ben elle éclaire à 10 mètres facile, même à 15 mètres. C'est une petite flamme de rien, c'est pas 1 watt, c'est un 0,2 watt, d'accord ? Par rapport à Rabbi Akiva, avec ses 2000 watts, c'est rien. Mais ça éclaire beaucoup plus. Messieurs, ça dit Rabbi Nohari, Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans à Tzfat, que si nous on voit encore aujourd'hui à Tzfat, on sent la sainteté qu'il y a dans cet endroit-là. Tzfat, c'est un endroit super kadosh. Pourquoi ils sont allés là-bas, les Juifs ? Parce que c'est le seul endroit en Israël où il n'y avait pas, à 40 km aux alentours, il n'y avait pas une seule église. C'est un endroit super kadosh. Qui avait à l'époque ? Peut-être 2000 Juifs à Tzfat, parmi eux, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Nohari, Rabbi Moshe Cordovero, le rabbin du Rabbi Nohari en Kabbalah, Rabbi Yehuda Vidash, celui qui a écrit le Rachid Chochma, des plus grands livres de Moussar, le Al-Sheikh HaKadosh, un des trois hommes qui a été appelé HaKadosh, Rabbi Noël Kabetz, qui a écrit les Chadodi, le Radbaz, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, etc. Des monstres de grandeur, des géants de Torah. Kadosh. Si nous, on le mettait aujourd'hui à Tzfat, on mourrait sur place évanoui, d'accord, de la sainteté qu'il y avait là-bas, la lumière qu'il y avait là-bas. Et sur cette sainteté, Rabbi Nohari dit, les forces du mal sont beaucoup épaissies, il fait noir. Alors, à notre époque, à Tel Aviv, et même à Jérusalem, qu'on est quoi dans le noir ? On ne sait même plus c'est quoi. Le noir, Rabbi Nohari, pour nous, c'est un soleil aveuglant, d'accord ? On est dans, je sais pas, il n'y a pas de terme pour dire, les ténèbres, là, d'accord ? Inimaginable. T'es un juif. Les Shem Shamaim, pour rien, rien à gagner. Il quitte tout. Il s'assied, il prend une Gemara, il ne comprend rien. C'est de l'araméen, il y a 2000 ans, on parle d'une vache qui est encornée par un bœuf. Et pendant 2 ans, il étudie ça. Comment la vache et comment le bœuf est tombé dans un trou et le machin et le truc. c'est de la folie, complètement incompréhensible. Eh bien, cette petite lumière, elle est claire. Alors, comment elle est claire? Alors, on est des nuls. Mais ces petits nuls, dans cette obscurité, ils font énormément comme jamais, jamais de l'histoire il y a eu. Donc, on est très enfoncé dans le noir. Et on est des grands nuls. Mais tellement on est nul, d'accord, tellement le monde il est nul, tellement le mauvais, que la petite lumière que nous faisons, elle vaut plus que tout ce qu'on fait les autres. Et on amène ma chère Bézart Hachem très bientôt. Oui.
Il a marqué Rav. Rav, que je me refouche chez Tzadikim Moratim, ou Talam Echol Dorvadan. Après, Hachem il a vu que les Tzadikim ils étaient peu, il les a mis dans chaque
éparpillé.
Donc on peut dire que le chat c'est normal, mais on peut dire que les Tzadikim d'avant, ils sont aussi maintenant là. Parce que Tzadikim il a vu. Par exemple, on dit par exemple, Ramon Vadio Yosef, il a dit le Razonich que son ouvrage à Biomère, il y a 300 ans, il a fait un ouvrage comme ça.
Pardon ?
Que le Razonich, il a dit que l'ouvrage de Biomère, il a pas eu 300-400 ans, des ouvrages comme ça.
Il y a des grands tzadikim qui sont des très grandes âmes qui viennent. Mais tout le monde a un tzadik de notre génération, comme l'exemple de Golovin. Golovin, c'était tout à fait non adapté à son époque. Son élève lui dit, il arrivait peut-être au niveau d'un élève du Ramban. Donc on ne connaît même pas le nom aujourd'hui. D'accord, l'élève du Ramban, on ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'il avait un niveau pareil. Donc c'est vrai que par rapport à sa génération, le grand génération, il a une âme beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, il a un potentiel énorme. Mais ça reste par rapport à notre génération. Si on va en arrière, rapidement, il devient tout à fait dans la masse. Donc, deux raisons pour lesquelles, en résumé, il y a baisse des générations. Les âmes deviennent plus petites. Donc on a besoin d'être plus dans le détail. La lacha devient on est dans les finitions. Deuxième raison, c'est que pour ne pas nous anéantir, Hachem s'éloigne toujours plus. Donc plus il s'éloigne, plus on chute et moins on a une appréhension, on peut accéder à des niveaux. Et maintenant, on est en train de remonter parce que bien qu'on ait des petits, on est dans les finitions et la petite lumière que nous faisons fait beaucoup, beaucoup d'effets. Baruch Adonai, Roman Gamer.